Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Pour Raymond Federman, son enfance a disparu dans le débarras où il a été caché le jour de la rafle du Veldiv, qui l'a rendu orphelin et seul survivant de sa famille. « Chut !» lui a dit sa mère avant de le pousser dans le cagibi et de refermer la porte. C'est seulement 30 ans plus tard qu'il s'est attelé à l'écriture de la voix dans le débarras, comme une plongée en lui-même et dans son passé à réinventer. La voix dans le débarras, c'est un texte hors norme, un délire verbal, comme Raymond Federman l'a qualifié lui-même. Une seule et longue phrase, sans ponctuation ni majuscule, et à la syntaxe incertaine, un monologue écrit simultanément en anglais et en français. Bonjour, Sarah Oppenheim.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène et vous avez choisi d'adapter au théâtre ce texte. On peut voir votre spectacle à la MC93, la Maison de la Culture de Bobigny, jusqu'au 15 février. C'est un choix ambitieux. Peut-être qu'on peut en écouter un extrait, de votre pièce pour que nos éditeurs se fassent une idée.
Maintenant, étalon s'électrique me fait être, devenir avec ses boules orgueil. Foutaise, dit Sam dans son cabinet de débarras, toute boule. Mais cette fois-ci, là-haut, ça va être sérieux. Plus de branlades, fuite dans les arbres au troisième. Non, on les a coupés, les arbres. Menteur, c'est l'hiver. Sursis, maintenant. Plus de faux départ. Hier, un caillou a brisé la vitre. Petit vicieux, à plein souffle, je le vois du coin de l'œil, pousse, je joue plus. Un gamin se faufilant dans la rue, petit vaurien, à travers les pages vides, en fou rire, salopant ma vie. Un signe. Presque frappé, il a eu chaud dans la gueule, effrayé dans les yeux, pendant qu'il attend que je me déplie en haut, me dévoile. Peut-être enfin le signal d'un départ de ma propre voix, un commencement après tant de détours implacables, fausses justifications dans les marges et d'autres encore à venir dans mes mots radotants. À moi, maintenant que je parle, disent l'histoire vraie de l'autre côté, expulsé du dedans lointain, ils me poussèrent sans délai, rôle renversé, dans le cabinet de débarras au troisième étage. Je parle seul de nous, dans une boîte battue bleue à vif. Question de perspective. Voilà comment ça aurait dû être commencé dans mon slip de garçon. Je parle de moi. Chut.
Petit commentaire de texte, Sarah Oppenheim.
Alors là, on entend Fanny Marie, qui est la comédienne qui joue la voix française. Il manque Nigel Hollidge, qui donc a la partition anglaise, puisque ce texte est monté en deux voix, tout comme dans l'édition des Impressions Nouvelles, il est présenté de manière bilingue, avec le français d'un côté et l'anglais de l'autre. Ce qui correspond à l'écriture de Raymond Federman, qui a d'abord écrit le texte en anglais et un an plus tard en français. Donc ce n'est pas une traduction exacte, mais un même récit fait l'un après l'autre en deux langues.
Ce qui nous amène à parler un peu de sa vie. Peut-être vous pouvez le faire pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas forcément très bien, puisque ce bilinguisme renvoie à son histoire en fait.
Oui, alors Raymond Federman, c'est un enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la voix dans le débarras, ça fait référence à ce moment de sa vie qui est le jour de la rafle du Veldiv, dans le jour où toute sa famille a été emportée et puis ensuite a été assassinée à Auschwitz.
Il a quel âge ?
Il a 12 ans. Il a 12 ans et lui a été sauvé parce que sa mère l'a caché dans le débarras, donc comme vous le disiez tout à l'heure, juste avant que les policiers arrivent. Donc il a passé une journée dedans, dans le noir, et puis ensuite il est parti seul rejoindre de la famille dans le sud de la France, dans le Lot. Il a passé le reste de la guerre dans une ferme, dans des conditions très dures. Et après la guerre, il a émigré aux États-Unis et il s'est installé là-bas. Et c'est là-bas qu'il a passé le reste de sa vie. Et donc, il n'avait pas fait d'études puisque c'était la guerre. Et arrivé aux États-Unis, ça a été aussi assez chaotique. Il a fait la guerre de Corée, ce qui est aussi une guerre assez violente. Et après, il a repris des études littéraires et il s'est mis à écrire en anglais quand il est devenu écrivain. Et tous ses premiers romans concernent l'expérience américaine, tout en occultant complètement la période française et les premières années de sa vie. Et La voix dans le débarras, c'est le premier texte par lequel il replonge dans cette histoire douloureuse et chaotique. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a écrit d'abord en anglais, puis en français, comme un retour à la langue maternelle.
Et vous, pourquoi vous avez choisi ce texte qui est difficile, objectivement? Vous auriez pu, par exemple, monter Chute de Raymond Federman, qui est plus classiquement autobiographique que ce texte-là.
J'ai choisi La voix dans le débarras parce que c'est magnifique. Enfin, c'est de la poésie pure.
C'est un très beau texte, voilà. Mais c'est un texte difficile, je veux dire.
C'est une forme qui m'a énormément...
C'est un défi, pour un metteur en scène. Vous êtes très jeune, en plus, de monter ça au théâtre.
Moi, c'est une forme qui m'a énormément touchée, justement, parce que c'est... De par son caractère poétique, de cette phrase sans ponctuation, c'est un texte qui fonctionne par le souffle. C'est vraiment des voix. Et donc, ça appelle le théâtre. C'est un texte qui est difficile à lire de manière silencieuse et qui prend vraiment tout son sens par la lecture à voix haute. Donc par la voix et donc par le théâtre. Après, dans la manière d'aborder son histoire, non pas par une autobiographie pure et exacte, ce dont d'ailleurs il aurait été incapable, parce que ce moment-là de sa vie correspond à un trou de mémoire. Donc c'est par l'écriture, par la fiction, qu'il peut se réapproprier son passé. Et y trouver du sens. Et dans cette écriture, en une seule phrase, d'une seule voix jetée complètement chaotique, j'ai trouvé une manière de raconter une expérience difficilement racontable. C'est en ça que je trouvais ce texte très, très, très juste, d'une formulation que j'ai rarement trouvée ailleurs dans d'autres récits. Qui pouvait parler du même type d'expérience. Voilà.
Vous avez dit que la voix dans le débarras occupait une place importante dans son œuvre. Lui-même dit qu'il occupe une place centrale. Il dit « The voice in the closet », la voix dans le cabinet de débarras. Donc le titre en anglais, c'est « The voice in the closet ». C'est le cœur de mon œuvre. En quoi, à votre avis, c'est le cœur de son œuvre?
C'est comme si ce texte contenait plein de bribes de textes d'avant et contenait aussi des textes qu'il allait écrire après comme Chute. C'est un texte qui, à la base, a été écrit sur 3 mois, des jours et des nuits, de manière complètement délirante et qui faisait 250 pages. Donc, il était beaucoup plus vaste que... ce qu'il en reste, qu'il a condensé dans des carrés. Et donc, il y a énormément de références à tout, aux États-Unis, comme à la période de la guerre, comme à l'enfance, comme à l'écriture, à ses inspirations littéraires, à ses inspirations de jazz, Charlie Parker, Samuel Beckett pour la littérature. C'est un texte qui contient tout. Et qui est extrêmement condensé. Après, si c'est le cœur de son œuvre, je pense que c'est aussi parce que, à mon avis, c'est son texte le plus intime et qui, dans sa forme aussi, est la plus intime. Il faut aussi savoir que la veille de sa mort, puisqu'il est mort en 2008, c'est ce texte-là que sa fille Simone lui a lu d'une seule traite. Parce que c'était son texte, voilà. Il dit c'est mon texte le plus merdeux, mais en ça, il ne veut pas dire que c'est un texte merdique. Il dit que c'est un texte où il lâche tout.
Comme une diarrhée verbale ou une logorrhée, comme ça.
mais néanmoins
incontrôlable.
Voilà, mais néanmoins très maîtrisé, mmh. puisqu'il l'a structuré de manière extrêmement rigoureuse dans des carrés, comme je vous disais, avec une contrainte typographique forte pour justement donner un cadre au délire. Enfin, qui sont ça, je pense, serait trop submergent.
Alors qu'on voit, par exemple, dans Chute, là, c'est une langue beaucoup plus pacifiée, c'est un livre beaucoup plus, on va dire, classique dans sa forme, même si, bon, il n'est jamais classique complètement, Raymond Federman. Mais là, il y a quelque chose d'une... de l'ordre de l'improvisation, même si, comme vous dites... mais on retrouve certains thèmes de ces livres précédents, finalement. Je pense à son premier livre, qui s'appelle « Double or Nothing », qui tout double en français. Il dit « C'est le roman que j'ai écrit pour apprendre à écrire un roman ». C'est son premier. Et l'histoire, c'est un gars qui s'enferme dans une chambre pendant un an avec 365 boîtes de nouilles pour écrire un roman que le lecteur est en train de lire. Et il dit « La question du temps et celle de la bouffe est donc résolue. » Bon, il a ses nouilles. « Le reste, la lutte avec les mots ou comment survivre pour arriver au bout de l'histoire, sachant que le langage est ce qui vous aide et en même temps vous empêche d'aller vers ce quoi vous tendez. » Il y a un peu tout son art poétique déjà. Là, c'est dans une interview où il revenait sur ce livre.
Et dans cette histoire de langage qui vous permet, qui vous empêche d'arriver quelque part, c'est là où on entend aussi la voix de Beckett. Et cette essayer encore pour échouer mieux, je ne crois pas que ce soit les mots exacts, mais en substance, c'est ça, des tentatives toujours recommencées, en sachant que tout va vers l'épure et tourner autour d'un sujet. Donc pour Beckett, le silence, chez Federman aussi, finalement, dans La voix dans le débarras, c'est vraiment essayer de rentrer, enfin, tel que je le formule aux comédiens, en tout cas dans l'œil du cyclone, et d'être toujours propulsé à l'extérieur du trou noir au milieu, mais néanmoins de toujours recommencer. On retrouve ça là-dedans, et puis aussi s'enfermer pour écrire, avec l'idée que les mots sont libératoires d'une certaine manière, et que les mots qui sont libératoires, c'est aussi les mots qui ne sont pas des mots quotidiens, qui ne sont pas une langue admise, qui ne sont pas la langue sociale, mais par la langue de l'écriture, on peut vraiment parvenir à une autre liberté.
Beckett, ce n'est pas juste une référence parmi d'autres. Hein. Beckett a une place très importante dans sa vie parce qu'il a fait plein de petits boulots, Raymond Federman, mais il a fini par... il a été champion de natation, joueur, professionnel. On dit qu'il a travaillé dans l'industrie automobile. Bon, c'est peut-être la légende, mais enfin, je pense qu'il y a aussi une part...
Il se raconte beaucoup.
Oui, voilà, hein. J'imagine.
C'est un fictionnel.
Oui, voilà, c'est un peu... Il fait un peu son Hemingway qui a travaillé. Bon, fait plein de hot jobs. Mais il a aussi été professeur d'université. Il a fait une carrière d'universitaire. Il a soutenu une thèse sur Beckett, la première, dit-on. Alors là aussi, est-ce qu'il exagère ou pas? Mais la première thèse en anglais sur Beckett.
C'était bien la première thèse sur Beckett, et il a aussi dirigé les Cahiers de Lerne sur Beckett, donc qui sont édités en France. Il a aussi écrit le livre de Sam, qui est un très beau livre sur Beckett, qui à la fois éclaire plein de textes de Beckett et puis aussi parle de son amitié et de son affection pour cet auteur. Et c'est vraiment une figure tutélaire, parce qu'il écrit sous les portraits de Beckett. Et d'ailleurs, la figure de Sam apparaît dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, puisque dit Sam dans son cabinet de débarras. Sam est présent... dès les premiers mots de La voix dans le débarras, et revient à de nombreuses reprises sous forme de citations, comme une aide à l'écriture, comme un autre auteur qui aurait trouvé les mots pour dire son expérience à lui. Donc c'est vraiment une rencontre fondamentale pour lui.
Et aussi, autour de la folie, il cite dans une interview Beckett, cette phrase de Beckett, « Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent. » Il dit, sachant qu'écrire mène toujours à la catastrophe, il faut être fou pour insister.
Et il refait aussi, à l'inverse, le parcours de Beckett par rapport à son bilinguisme. Puisque Beckett a écrit d'abord dans sa langue maternelle, puis dans sa langue d'adoption le français, Federman fait le parcours inverse. Mais il a un rapport quand même proche de Beckett au bilinguisme.
On peut revenir peut-être un moment sur ce bilinguisme. La préface de La Voix dans le débarras, qui est signée Marc Avlot, est intéressante de ce point de vue. Il fait l'hypothèse que, en fait, le bilinguisme marque en fait un avant et un après dans sa vie, puisque la dernière image de la mère, c'est une invitation au silence. C'est le fameux « chut » que lui dit sa mère. « Cache-toi ». Et Marc Avlot écrit « Avec la porte du placard qui se referme, se clôt l'évidence d'une langue qu'on dit justement maternelle. Il faudra désormais inventer les mots de la tribu. » Et donc, voilà, l'histoire bascule avant la banlieue parisienne, le français, et après les États-Unis, l'anglais. Le changement de langue, c'est donc c'est cette rupture-là qui est signifiée ce...
Oui, sans doute. Et c'est pour ça que je voulais travailler avec deux comédiens, un comédien anglais, une comédienne française. Bon, j'ai choisi une comédienne aussi pour la tessiture de la voix féminine, qui est une voix qui n'a pas encore mué, pour travailler sur la voix française de l'enfance et la voix... anglaise de l'adulte devenu écrivain. Et on voit dans La Voix dans le débarras les tentatives américaines flamboyantes de s'inventer soi-même, de se cacher derrière de multiples noms de plumes, tandis que de l'autre côté, la voix de l'enfance qui elle-même a été cachée et qui a eu une enfance d'enfant caché. Cette expérience d'avoir des faux noms, et bien sûr le fait d'être effacé, oblitéré dans le noir, comme il le dit, donc face à une même histoire, à deux moments de la vie, être dans deux langues, c'est être dans deux points de vue différents sur cette histoire.
Parce que ce qui est important que nos auditeurs comprennent, c'est que non seulement il y a deux versions, anglaise et française, qui ne se recoupent pas exactement, mais en plus, à l'intérieur de chaque version, Federman s'interpelle. Enfin, il y a un « il ». Vous pouvez nous parler de ce dédoublement qui est une des figures, d'ailleurs, de son œuvre, hein, qui parcourt, la figure du double parcourt toute son œuvre. Il prend un malin plaisir un peu à jouer à cache-cache avec lui-même. Donc là, vous en avez dit un mot déjà.
Il y a même un texte... où il fait référence à Aragon pour reprendre les termes du mentir vrai. Donc, Aragon qui, pour d'autres raisons moins tragiques, se posait aussi la question du nom à l'origine, du nom caché et du mystère de la naissance. Federman, donc lui qui dit que le débarras et l'endroit où son enfance a été enfouie, mais aussi le jour qui lui a donné un surplus de vie puisqu'il a été survivant, c'est situe à cet endroit-là, à ses 12 ans, le mystère de sa naissance, mais ça n'en demeure pas moins un mystère. Après, d'être en anglais et en français, avec ses multiples voix, comme un dialogue avec lui-même, qui est aussi où commence la naissance. Est-ce que la naissance commence dans le débarras? Est-ce que la naissance commence avec la venue aux États-Unis? Qui est celui qui parle en moi? L'anglais et le français lui permettent de se tenir un dialogue infernal avec lui-même, comme il le dit. Et un dialogue en toutes les langues. Donc ce qui est un tiraillement énorme entre les deux langues, le rêve, l'optique, et d'arriver à finalement en faire une réconciliation des langues. Et il y a d'autres textes où il rêve d'une phrase qui serait une phrase d'anglais, français, une phrase bilingue de tous les mots. Donc par l'écriture, faire d'une prison un endroit de liberté.
Et ce thème du double, alors vous l'avez très bien, on va dire, mis en scène, y compris alors là, vous allez nous en parler, par un travail graphique très intéressant qui redouble le mouvement de l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce dispositif que vous avez choisi des gribouillages, si on peut les appeler comme ça,
c'est
complètement improvisés.
C'est du gribouillis. On va dire que sur le plateau, avec le comédien anglais et la comédienne française, il y a un troisième acteur, une troisième actrice, qui est une dessinatrice que l'on ne voit pas sur scène, mais qui dessine chaque soir en direct, et dont les dessins sont projetés sur l'ensemble du dispositif scénique du décor.
Alors sur une toile quasi
oui,
invisible,
c'est un,
en
c'est
fait.
C'est un tulle noir transparent quand il est nécessaire et opaque quand c'est nécessaire. Donc c'est un peu le lieu des projections imaginaires, le lieu de l'espace mental, et travailler donc sur le geste d'écriture, puisque comme vous l'avez dit, ce qu'on voit n'est pas du tout figuratif, c'est essentiellement des gribouillis. C'était rentrer dans le geste d'écriture de Federman, dans cette écriture délirante qui envahit tout. Tout à l'heure, vous parliez des nouilles. Voilà, il dit écrire en noodling, donc par boucle. La boucle est un mouvement qu'on retrouve dans La voix dans le débarras, puisqu'il tourne toujours autour d'un même sujet sans réussir à en trouver le cœur, ou en trouvant le cœur de cette manière-là plutôt.
Et qui est bien illustré donc par
Louise Dumas. Oui. Qui donc, elle, fait un travail vraiment sur la dynamique et la rythmique aussi, puisque c'est aussi écrire en improvisant sur le modèle du jazz. Parce qu'il écoutait aussi, c'était un fervent admirateur de Charlie Parker.
Et il écrivait en écoutant du jazz.
Et donc rester dans ce mouvement-là de l'écriture, et puis dans cette graphie folle qui envahit tout, en fait. C'est-à-dire que pénétrer à l'intérieur d'un crâne, c'est pénétrer aussi à l'intérieur de ça.
Et qui envahit l'espace scénique à des moments de façon presque angoissante. Enfin, on se croit à des moments dans une cellule couverte comme ça de signes étranges, inquiétants.
Oui, le dessin sert aussi à rentrer dans l'univers des terreurs de
oui,
l'enfance, des cauchemars récurrents.
À figurer son espace mental en quelque sorte.
Voilà.
Ouais. C'est très réussi d'ailleurs. Extrêmement réussi, je trouve.
C'est-à-dire que la figuration qu'il a de cette histoire-là n'est pas une figuration exacte, bien sûr, mais tout ce que lui a pu se raconter, c'est l'enfant dans le noir avec les figures imaginaires terribles, notamment de la famille disparue, mais des figures terribles, mais qui tiennent aussi compagnie. Qui sont quand même, bien que terrifiantes, plus rassurantes que la solitude absolue. Voilà, donc on se tient compagnie par l'écriture, on se tient compagnie en gribouillant des figures.
Merci Sarah Oppenheim. J'invite les auditeurs à aller voir votre spectacle, La voix dans le débarras, donc, qui est joué à la Maison de la Culture de Bobigny jusqu'au 15 février. Quant à nous, nous nous retrouvons dimanche prochain. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.mémoirevive.net, www.radio-rcj.info. À dimanche prochain.